CO2 Mon Amour, avec le WWF. Défendez les espèces en voie de disparition, ici et partout dans le monde. Plus d'infos sur les dons, legs et assurances vie sur WWF.fr.
Le plus important, Gustave, ce sont les enfants.
Oui, bien sûr, Gisèle.
Arrêtez de vous tourmenter comme ça. La forêt n'est pas si dangereuse. À part, évidemment, s'ils ont la malchance de tomber sur des loups.
Des loups, il y a des loups.
CO2, mon amour.
Ça fait 3 ans qu'on les a réintroduits dans les forêts du Berry.
Mais vous êtes un grand malade. Pourquoi vous avez réintroduit le loup?
Ah, c'est pas moi, les écolos. Personnellement, j'avais voté pour l'ours. Ça ramène plus de touristes.
Oh, des loups. Jésus-Marie-Joseph, des loups.
Denis Chesson.
Il y a des loups.
Et oui, il y a des loups et peut-être même des ours dans le Berry. Voilà, bah ça vous fait sourire, ça, Jean-Michel Bertrand.
Ah, elle est bonne, celle-là, tiens, c'est bien parti.
Jean-Michel Bertrand est avec nous, donc avec ce film La Vallée des Loups. On va pouvoir donc détailler tout cela et puis surtout revenir avec un reportage que nous avions effectué sur le terrain avec vous, Jean-Michel. CO2 Mon Amour, bonjour à tous. L'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec à la technique Vincent Godard et Julien Michel, et assisté de Camille Blanès. Eh bien, c'est Xavier Pestugia qui réalise l'émission. Et qui commence par une petite humeur. 1, 2, 3, c'est parti. L'année 2017 pour nous, ce sera le tour du soleil en 365 jours. À cheval sur notre petite planète, dans la pampa des grands espaces, en écartant nos murs, des idées nouvelles à faire émerger dans un monde moins ravageur de nature. Un voyage relié au jour, aux nuits, aux saisons, mais oui, relié à la nature. Tenez, la lumière revient déjà, elle s'était recroquevillée, glissée dans nos draps le soir et pas gênée d'y flâner encore au petit matin. Mais là, elle se dit, ah, c'est le renouveau, par ici, la sortie. Alors pour la grande traversée d'une année à l'autre, peut-être vous êtes-vous offert des cadeaux, des statuettes en ivoire bio d'éléphants braconnés, de la poudre de perlimpinpin, de queue de tigre... Non, pardon, excusez-moi, je me trompais de ligne. C'est dingue, d'ailleurs, on n'y croit pas, se sont dit les éléphants en apprenant la bonne nouvelle. Les Chinois interdisent enfin le trafic d'ivoire, on est sauvés ou presque. Les enfants, vous qui allez naître dans 2 ans, ça va être formidable pour vous. Cette année, en fait, on s'est offert basiquement une écharpe, un vaccin contre la grippe, des moufles, un bonnet. Ben oui, parce que vous avez 30% de votre chaleur qui se dégage par la tête, c'est comme le toit des maisons, hein. Que vos neurones s'activent ou non, ça ne change rien. Bref, on s'est offert un vrai hiver avec un cornet et 3 boules glacées sur la tête, nos oreilles, le sol pour bien dégager la vermine. Alors vous avez peut-être aussi à des amis des poumons filtrants, une envie de déménager si vous habitez au bord des grands axes routiers, la vallée de l'Arve ou encore une cuvette garnie de particules fines. Vous avez peut-être offert, vous ne l'avez peut-être pas vu encore, le livre co-signé par Manuel Valls et François Fillon qui s'appelle « J'ai l'écologie chevillée au corps » et tellement envie de vous en parler que je ne le ferai pas pour ne pas vous déranger. Bon alors le titre est un peu long mais je vous rassure ça se lit sinon assez vite. Et alors pour vos élus, alors ça c'est intéressant, il faut leur offrir des mots à caser. Alors pour République, démocratie, sécurité, emploi, bon ça, ils savent parfaitement faire. Mais ils doivent maintenant aussi quand même placer dans leurs vœux que le développement durable soit la clé d'un mieux vivre ensemble. À l'heure de la mondialisation dans notre territoire, revenons à notre échelon local, non délocalisable, c'est beau ça, où la biodiversité, le réchauffement climatique, la préservation des espèces et des sols, l'installation des maraîchers bio doivent être analysés après réalisation d'un diagnostic partagé, ça sonne bien, avec les acteurs du territoire. Alors, les acteurs du territoire, c'est les habitants. Mais c'est un vieux mot maintenant qui c'est un peu fini. Faute de quoi aucun projet authentique de développement. Ah, j'ai oublié le durable en route. Ouais, mais c'est comme ça. Qu'il faudra raisonner en termes de contrat et de lien de solidarité, ça ne pourra pas voir le jour. Alors qu'est-ce que j'ai oublié? Ah si, je compte donc sur votre authentique participation qui s'inscrira bien sûr dans une relation de proximité, garant de la préservation du lien social qui nous est si cher. Vive l'écologie, vive le tri sélectif et vive la France. Je crois que c'est pas mal. Hein,
c'est bien, ça, Jean-Michel. Là, j'ai des frissons.
Et alors, le gars termine et puis il se tourne en disant, dites-moi, monsieur le préfet, c'est toujours bon pour les travaux de la ligne à haute tension, de l'aéroport inutile et du centre aqualudique sur la zone humide à côté de l'emplacement du futur casino. Je vous remercie beaucoup. Belle année, monsieur le préfet. Jean-Michel Bertrand, donc avec nous, avec cette vallée des loups, avec cette formidable en fait aventure hein, qui a duré quand même plus de 3 ans. J'ai presque envie de la résumer en disant rêve, quête et obsession.
Ouais, c'est peut-être un peu ça. En plus, vous êtes bien placé, Denis. hein, pour savoir ça, parce que vous faites partie de ceux qui ont suivi ça depuis le début. Et c'est vrai que là,
vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas Pâté dans le coup, il n'y avait pas le film.
Il n'y avait pas Pâté, il n'y avait pas le film, il y avait beaucoup de doutes. Aujourd'hui, on est en promo. C'est vrai qu'on est un petit peu, mis en avant, et ce qui fait évidemment plaisir. Et ça, tout ça pour la bonne cause et pour que le film décolle.
Il y a de belles critiques.
Hein. Ça fait plaisir. Mais vous étiez là au début. Dans cette période, et je me demande franchement, Denis, quand j'ai parlé de ça, parce que je sais maintenant, quand j'en ai parlé aux copains et tout, je vais faire un film sur les loups sauvages et tout, est-ce que vous y avez vraiment cru, dès le départ? Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit après... Il a peut-être mis la barre un peu.
Ah non, pas du tout. Parce que moi, j'avais vu Vertige, une rencontre, c'est-à-dire ce premier film où là, c'était aussi une quête, c'était aussi un rêve, mais c'était sur l'aigle. Bon, évidemment, beaucoup plus facile à voir. Chacun peut voir des aigles relativement facilement. Mais quand même, il y avait déjà cet esprit de quête. Et je me suis dit, le bonhomme est tellement opiniâtre que de toute façon, il va y arriver. Voilà.
C'est vrai que j'ai du mal à lâcher.
Oui, c'est ça, c'est absolument. Alors, on va commencer par une bonne nouvelle aussi. Ça va nous faire du bien. On va aller du côté de la ville de Lyon. C'est un peu une actualité parce qu'en fait, ce début janvier 2017, États et collectivités locales devront se passer de traitements chimiques dans leurs espaces verts, même sur la voirie. C'est ce que nous a rappelé cette semaine Martine Ballot dans Le Monde. Et donc, on va rejoindre Tatiana Bouvin, qui est responsable développement durable à la direction des espaces verts de la ville de Lyon. Bonjour à vous. Et Lyon, en fait, a atteint le zéro phyto en 2008 au prix de 7 ans d'efforts. Racontez-nous.
Denis, bonjour. Alors, on a pris les choses au commencement. On s'était donné du temps. On s'était donné d'abord 5 ans pour y arriver parce qu'on savait bien que ce ne serait pas forcément facile. Et l'histoire l'a vérifié. On avait cet objectif de supprimer complètement les pesticides parce que c'était dangereux pour la santé de nos jardiniers, parce que c'était dangereux pour la santé des usagers qui se roulent dans les pelouses et qui n'ont pas forcément envie de revenir avec des produits chimiques collés sur leurs vêtements.
C'est gentil.
Donc, on a mis en place une méthode un peu pragmatique en essayant d'être actif sur tous les fronts. Parce que les pesticides, il y en a partout. Il y en avait pour désherber les pelouses, pour entretenir les fleurs dans le jardin botanique, pour produire des fleurs qu'on va ensuite planter dans les massifs de la ville. Les pesticides, on en mettait tout le temps. Il y avait des habitudes qui avaient été prises par des décennies d'histoire horticole. On a pris le taureau par les cornes. On a essayé de voir comment s'en passer. Il a fallu faire beaucoup de travail avec les équipes.
Oui, parce que 400 personnes, 230 jardiniers quand même. Hein, donc, il faut faire changer les mentalités, là.
Ça fait du monde. Et puis, c'était du monde qui avait pris des habitudes de travail, qui avait été à une école horticole où on apprenait qu'un espace vert digne de ce nom, il ne devait pas y avoir de mauvaises herbes qui poussent entre les pavés, qu'un gazon, c'est vert et il n'y a pas des pâquerettes qui poussent dessus. Donc, il a fallu expliquer, faire beaucoup de pédagogie, déjà travailler sur la question du risque, faire connaître, comprendre la dangerosité des produits. Donc, petit à petit, le message a commencé à faire son chemin. On a essayé d'envisager des façons de faire sans ces fameux produits phytosanitaires. On a fait beaucoup, beaucoup d'expérimentations.
Alors, par exemple, pour vous passer de désherbant, vous avez testé du broyat de cacao, des fibres de coco, de la pouzzolane, de la paille sèche, etc. Donc, pour voir ce qui était le mieux, ce qui fonctionnait.
L'idée, c'est de couvrir le sol pour éviter que les herbes ne poussent par en dessous et donc qu'ensuite le jardinier ait besoin de venir désherber. Donc, ça économise du travail. On passe le paillage une fois en début de saison, puis ensuite, il y a quand même des désherbages à faire, mais ça évite de venir de manière trop systématique. Et du coup, on peut se passer des fameux désherbants chimiques. Pour lutter contre les différents ravageurs des cultures, les pucerons, vous le savez, adorent
les coccinelles,
les rosiers. Oui. Pour essayer de lutter contre ces pucerons, on a travaillé avec des auxiliaires des cultures, effectivement, les coccinelles en premier lieu, et aussi tout un cortège d'insectes, des petites guêpes, donc ce qu'on appelle les micro-hyménoptères, donc aphidius, trichogrammes, on a aussi utilisé des nématodes, tout un tas d'auxiliaires qui jouent leur rôle, mais qui ne peuvent être efficaces que si on change un petit peu de point de vue. On avait l'habitude de voir des rosiers impeccables, nickel, sans pucerons, parce que les traitements chimiques le permettaient. Si on passe en bio, il faut être plus tolérant et accepter que certains rosiers essuient un peu les plâtres. Quoi.
Bah, bien sûr.
Aient des petites taches, aient quelques feuilles un petit peu mangées, parce que pour que les auxiliaires qu'on lâche continuent d'avoir à manger toute l'année et donc se maintiennent et s'acclimatent sur l'espace, il faut qu'ils aient à manger toute l'année. Et donc, il faut qu'il y ait quelques pucerons quand même qui traînent dans les parages, on va dire.
Et puis, il y avait aussi un système qui était complètement dément. C'est-à-dire que d'un côté, vous aviez donc des déchets, 3500 tonnes par an, qui partaient avec une société privée, donc à 25 km de Lyon. Et puis, retour, vous achetiez donc du compost, quoi. C'était dingue, quoi.
Donc, il fallait vraiment qu'on change de façon de faire. Et on a appris à être autonome sur la gestion de nos déchets verts. on a appris à fabriquer nous-mêmes le compost qu'on réutilise ensuite pour enrichir nos sols. Et du coup, on fait un circuit fermé en filière beaucoup plus courte. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on a chiffré les économies de transport en milliers de kilomètres, donc autant de CO2 en moins.
Avant 2004, la ville achetait quand même pour 30 000 euros de pesticides par an, hein, si on parle simplement que des pesticides. Donc évidemment qu'il y a une économie extrêmement importante. Mais à côté de cela, vous avez sûrement dû avoir un coût supplémentaire d'heures de travail ?
Alors oui, mais on l'a absorbé en faisant des transferts de charges. C'est-à-dire que on a effectivement économisé sur l'achat de pesticides, mais il a fallu passer plus de temps pour désherber. Donc le temps, il a fallu l'économiser ailleurs. Comment ? Bah, en premier, en tondant moins souvent. C'est-à-dire que les pelouses qu'on tondait 20-25 fois par an, on a diminué. On est passé, pour certains, à 8 ou 10, pour certains, à une fauche par an. Donc c'est des interventions en moins, c'est des consommations d'énergie en moins, c'est du temps passé en moins, et en plus c'est un gain pour la biodiversité parce que on a du coup des pelouses qui sont beaucoup plus riches et les inventaires le prouvent. Nos jardiniers sont formés progressivement à faire ces inventaires de la flore des pelouses et constatent par eux-mêmes que ça marche, qu'on a une vraie biodiversité qui revient avec un nombre d'espèces qui augmente et aussi bah, toute une faune qui du coup va être mieux accueillie sur ces espaces. Donc c'est tout bénéf finalement.
Et puis on va remercier aussi quand même le cheval, hein, ça c'est pas mal parce que c'est lui qui va tirer donc les poubelles avec les branches mortes. On peut l'entendre hennir du côté du parc de la Tête d'Or et ailleurs. Alors en fait, avec l'abandon des traitements chimiques, est-ce qu'il y a une vie donc qui a repris ?
Alors oui, c'est indéniable. Aujourd'hui, on voit des oiseaux, des mésanges, des moineaux qui ont réinvesti les parcs où il n'y avait plus beaucoup de vie auparavant parce que bah, il y avait tellement de chimie qui était utilisée que les pauvres oiseaux se sont intoxiqués. Aujourd'hui, des études le montrent. On fait des inventaires, on les fait faire par des associations naturalistes, on en fait nous-mêmes. On voit bien que la biodiversité revient dans les jardins. On a étudié les pollinisateurs sur le Grand Lyon. On a trouvé plus de 300 espèces rien que sur le territoire du Grand Lyon, ce qui est énorme. Et tout ça, on le sait, c'est corrélé avec la forte diversité végétale qu'on a pu réintroduire dans les villes. Il ne s'agit pas de faire de la monoplantation d'une ou deux espèces, non, au contraire, travailler sur un cortège très très varié de végétaux en essayant d'avoir recours à de la flore locale, si possible, qui va être naturellement adaptée aux pollinisateurs, à toute la faune qu'on retrouve chez nous et qui du coup va créer une biodiversité de bonne qualité ou en tout cas ne plus impacter cette biodiversité comme on le faisait auparavant.
Tatiana Bouvin, au-delà du réglementaire aujourd'hui, il y a quand même eu une volonté politique. C'est-à-dire que il y a eu des gens qui se sont dit bon non, on va prendre ce cap-là et donc on va changer, on va casser donc les habitudes. C'était un choix quand même.
Oui, tout à fait. L'idée c'était de rendre la ville aux habitants, de rendre la ville plus agréable, d'améliorer le cadre de vie, de le rendre plus naturel, d'enrichir la biodiversité de la ville tout en essayant d'apporter en plus pour la santé, à la fois pour nos agents et puis pour les Lyonnais, pour les utilisateurs des espaces verts.
Merci beaucoup Tatiana Bouvin, puis on vous souhaite une très belle année donc à Lyon, dans cette capitale des Gaules, et puis à très bientôt. Merci Tatiana.
Merci beaucoup à vous. Au revoir.
Et voilà, ça se passe dans les collectivités, on s'en doute, que ce soit pour le réchauffement climatique, que ce soit pour la biodiversité, c'est par là aussi que ça se passe, et puis aussi évidemment individuellement. Notre première chanson, c'est parti. Et on retrouvera Jean-Michel Bertrand dans quelques instants.
One more night till the morning. One more night, one more night till the day. I'll be right in the morning. I'll be.
C'était Michael Kiwanuka sur France Inter. One More Night, choisi par Muriel Pérez, notre programmatrice.
Avant d'aller dormir, je vais vous raconter le loup et l'agneau.
Oui, oui.
CO2, mon amour. Avec Denis Chessou sur France Inter.
Il a tout dit, mais c'est un concentré. Hein,
excellent.
C'est bon, évidemment bon. De Funès, choisi par Xavier Pestudja, qui n'a pas pu s'empêcher. Alors du loup, évidemment, on sait très bien, on va pouvoir en parler aussi en seconde partie avec une vétérinaire, parce qu'on voit très bien que ça embête quand même pas mal d'éleveurs, et on peut le comprendre aussi. Mais vous regardez les toponymes, la Loubatière, Saint-Leu-la-Forêt, Loubarès, Louvier, la Grange-au-Loup, Chanteloup, le Cul-du-Loup, le Louvre, bref, ils sont dans la toponymie un petit peu partout. J'ai envie de vous demander, donc ça veut dire évidemment qu'ils étaient dans toute la France à une époque. Maintenant, ils se réfugient dans les endroits où vous avez du couvert, des forêts, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs dans le monde entier, parce que vous avez donc des loups dans les steppes, vous avez des loups dans des endroits semi-ouverts. Donc,
en Mongolie, dans la steppe et autres.
Et alors vous avez pas mal voyagé, c'est-à-dire que avant ce film là qui vous fait bien connaître et aussi avant Vertige, une rencontre sur les aigles, Jean-Michel Bertrand, vous êtes parti quand même un peu partout dans le monde, enfin en tout cas dans pas mal de coins pour faire des documentaires et ça tournait assez bien.
Ouais, c'est ça, c'est assez paradoxal en fait parce que d'un côté, j'ai quitté l'école à 16 ans pour faire des images, des films, des photos des animaux, des montagnes qui entouraient mon village.
Et donc puis on est à Saint-Bonnet-en-Champsaur,
voilà, on est dans les Hautes-Alpes, dans les Écrins, et je me retrouve à voyager dans le monde entier pendant 25-30 ans, à passer près d'un an en Mongolie avec les nomades, à faire des films en Islande et ailleurs, et finalement ça... J'avais toujours le cafard quand je partais parce que je voulais revenir. Enfin voilà, c'était un peu inexplicable et j'ai fini par revenir parce que j'ai coupé tout ça, même si c'était confortable, même si je gagnais bien ma vie, que j'avais des vacances et que c'était gratifiant de faire des beaux voyages et tout le temps et d'être toujours un peu un baroudeur. Mais j'étais à côté de mes pompes quelque part dans moi-même quoi. Et donc j'ai arrêté. Après j'ai commencé avec cet aigle et puis qui m'a emmené évidemment vers le loup. Mais quelque part je ne regrette pas évidemment parce que je suis pas du genre à regretter. Non. Mais par contre, petite parenthèse quand même, pour dire que si je n'avais pas arrêté, j'aurais regretté. Parce que j'ai bien senti, qu'il fallait, voilà. Mais en fait, ça m'a quand même apporté beaucoup de choses, et notamment le rapport aux loups des nomades mongols, qui sont des éleveurs, qui sont en pleine nature, et des loups en Mongolie, il y en a plein. Et moi, je rêvais d'en voir déjà quand j'étais avec eux, avec les nomades, et j'en ai jamais vu. Bon, parce qu'ils se planquent bien, la pétoire est quand même là. Et puis, bon, voilà, ils se tiennent à distance des troupeaux et des éleveurs. Mais voilà, donc j'ai pu palper ce rapport au sauvage et ce rapport au loup qu'ont certaines civilisations et que n'ont pas d'autres.
Alors ce que je propose maintenant, Jean-Michel, c'est de vous retrouver sur le terrain. C'était au mois de mars dernier dans les Hautes-Alpes. Et après, bien sûr, on va reprendre cette conversation.
La balade de Denis Chessou.
Alors là, Jean-Michel Bertrand, on arrive chez vous dans les Hautes-Alpes. On ne va pas en dire plus parce que on arrive pour nous pour la troisième fois en fait dans votre lieu. Ouais, faire attention quand même, pas déraper avec le petit ruisseau qui est juste à côté. Voilà.
Ça commence à fondre, mais il y a encore de la neige.
Alors si nous sommes là, c'est parce qu'en fait, depuis 3 ans, vous pratiquez l'affût. Pratiquez l'affût parce que vous tournez un film avec les loups.
Alors, on a une crête. Alors ça, je dirais que c'est votre bivouac d'été un petit peu plus haut, parce que là, on a 1800 mètres. La crête est à combien, là ?
Alors, là-haut, il y a une butte avec un autre petit collet qui est à 2000 mètres.
Oui.
Et en fait, c'est leur passage d'été. Voilà. Et je me suis rendu compte en observant les traces et en posant aussi des caméras automatiques qu'en hiver, ils ne passent absolument jamais là-haut. Ils passent là, à Skol, ici, là où je suis. Et évidemment, la plupart du temps, ils passent la nuit. Et ils vont recommencer à passer là-haut à partir du mois de mai, quand la neige va bien se tasser. Et là, ils vont reprendre leur circuit estival. Et je vais retourner au bivouac estival d'ici quelques semaines.
Dans la vallée des loups, il y a un homme, Jean-Michel Bertrand, avec une quête. Une quête, je vous le disais, obsessionnelle. La quête, le rêve, l'inaccessible étoile, l'inaccessible patte du loup et le pari donc de rencontrer cette bête invisible. On est donc dans ce département des Hautes-Alpes, celle natale de Jean-Michel Bertrand. Et c'est là que le cinéaste a eu la chance, mais enfin il s'est mis aussi de côté tous les éléments pour y arriver, de croiser cet animal et même d'en croiser plusieurs. Je vais vous emmener discrètement sur les lieux de ce tournage. Donc c'était le troisième, quelque part entre ciel, torrent et forêt, on va dire massif des Écrins pour être très large, on n'en dira pas plus. Donc travail de longue patience et c'était pas très simple forcément de voir les loups en hiver. Et donc là Jean-Michel nous raconte cette histoire.
Ben, ce qui s'est passé, c'est que j'ai beaucoup de problèmes en fait à voir les loups en hiver. Donc j'ai eu des tas d'expériences fabuleuses près de la tanière, au mois de juin, sur le site de rendez-vous, durant tout l'été.
Alors le site de rendez-vous, on va le rappeler, c'est là lorsque déjà les loups sont devenus des louveteaux, pour pas les lâcher complètement, eh bien les parents leur apportent de la nourriture sur ce fameux site de rendez-vous.
Voilà, c'est ça. C'est qu'une fois que les louveteaux ont quitté la tanière, vers 3 mois à peu près, les adultes vont les emmener ailleurs sur ce fameux site de rendez-vous, mais ils ne sont pas encore capables de suivre la meute. Et du coup, là je m'en suis mis plein des godasses.
Ouais.
Et du coup, les louveteaux restent sur un endroit relativement limité. La meute va chasser et leur amène la nourriture. Voilà, donc ça c'est des coins qui sont finalement cadrés, que j'ai eu le bonheur de réussir à découvrir au fil du temps. Et donc c'est un peu des rendez-vous. Et pour moi c'est pas facile, mais c'est fabuleux de pouvoir les voir comme ça. En revanche, en hiver, les jeunes, évidemment, à partir de la fin de l'automne, suivent la meute, parce qu'ils sont capables de suivre les adultes au cours de leur pérégrination. Et en hiver, les loups sont complètement nomades. C'est-à-dire qu'ils exploitent complètement leur territoire, qui est quand même immense, à la recherche de gibier. Et donc, on ne sait absolument pas où ils vont. S'ils tombent sur un cerf qui tue un gros cerf, ils vont rester une semaine là. Ils vont manger sur la carcasse, roupiller dans le coin, etc. Mais on ne sait pas où ça va se passer. Après, ils vont errer, chercher un chevreuil ou autre. Et du coup, j'ai énormément de mal à voir les loups en hiver.
Et là, il y a quelques jours, vous l'avez eu.
Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après plus de 2 mois d'affût...
Vous étiez bredouille, hein, c'est ça?
J'étais complètement bredouille. C'est-à-dire que j'ai commencé cet affût au début du mois de janvier. Ouais. Janvier, rien vu. J'étais en moyenne 5 jours par semaine, tout le temps. Tout le mois de février, rien vu. Tempête de neige. Alors je rêvais, je me disais, là, quand la neige tombe, quand il y a le vent, les congères, si les loups passent, ça va être phénoménal. Ouais. Évidemment, chaque fois, chou blanc. Le mois de mars arrive, pas de loups. Et là, dimanche dernier, à 7h du matin, et là, un loup est sorti. Il est sorti à 7h pile du matin. Il est passé... Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, il y a les arbres là à droite.
Alors on voit les silhouettes, hein, parce que c'est quand même le soir, c'est la nuit là.
Il y a les mélèzes là qui sont à droite. Là, il y a le petit bouquet de mélèzes tout au milieu, tout seul. Il a traversé vers le petit bouquet... mélèze, et il est resté là pendant au moins un quart d'heure. J'ai pu le filmer. Alors, ce qui est extraordinaire, et moi, ce qui m'a complètement bouleversé dans cette histoire, c'est que il m'a complètement ignoré. C'est-à-dire qu'une fois de plus, j'ai été rassuré, je me suis dit que les loups m'avaient complètement intégré à leur univers, parce que finalement, toujours on doute.
Thank you. faut rappeler comment ça s'est passé. Parce que le loup et l'odorat, c'est incroyable quand même. Donc ça veut dire qu'ils savaient très bien que vous étiez là. Mais on va rappeler une chose, je vous le disais, c'est-à-dire que ça fait quand même plus de 3 ans que vous venez régulièrement, ce qui veut dire que vous laissez votre trace, vous laissez votre urine, vous laissez votre odeur de cigarette, peut-être l'odeur de café, et tout ça, ils l'ont intégré.
Mes tartines de pain grillé le matin sur le camping-gaz, etc. Et en fait, ça, ils l'ont complètement intégré. Alors, ce qu'il faut rappeler, et qui est pour moi hyper important, je viens au moment où les loups ne naviguent pas trop sur le territoire, c'est-à-dire au plein cœur de la journée.
Ouais.
En général, c'est là qu'ils sont le plus tranquilles, donc je ne veux pas les surprendre et les croiser, ce n'est pas du tout l'intérêt. Donc moi, je navigue aux heures auxquelles les loups ne naviguent pas. Je reste toujours sur les mêmes bivouacs, à la même place. Et la première année, j'ai voulu essayer de les suivre.
Ouais.
J'ai voulu suivre les traces, essayer de les trouver. C'était peine perdue parce qu'ils avaient toujours un trait d'avance sur moi. Et puis là, je me suis dit, je vais me planter là cette année. Je bouge plus, je ritualise toujours. C'est-à-dire que je monte au milieu de la journée. J'y reste 2 jours, 3 jours, 4 jours sans bouger. Et là, au bout de plus de 2 mois que j'ai pas vu de loup, je me suis, évidemment, on se remet à gamberger. On se dit, mon Dieu, peut-être que cette odeur, peut-être qu'ils m'ont capté, enfin bon. Et quand ce loup est sorti à 7h du matin, qui a même pas tourné la tête vers moi, et qui n'avait qu'une obsession, c'est d'aller vers le petit endroit sur lequel je mets tous mes déchets. C'est-à-dire que quand j'ai des pots de bananes...
C'est juste un peu au-dessus, là, c'est ça?
Au pied, vous voyez là, les 3 mélèzes là, qui partent,
ouais.
au pied du tronc, là, de ces 3 mélèzes soudés les uns aux autres, je dépose mes croûtes de fromage, mes coins de jambon cru, mes pots de saucisson, mes pots de bananes, tout ce que j'ai pas à redescendre et qui est dégradable. Et ce loup, qui m'ignorait totalement, a commencé à tourner, à aller sentir là au pied des mélèzes, en s'approchant, reculant, mais jamais en allant sur. Donc une méfiance incroyable, il n'est jamais allé à l'endroit même, il est toujours resté à 2-3 mètres de cet endroit-là. Et puis il est parti dans la forêt. Moi j'étais... Alors là, je ne raconte pas l'émotion, quoi. C'est le truc de malade, le cœur dans tous les sens, la tremblote, la joie... une émotion terrible. Et là, je me suis dit, c'est bon, je peux faire mon petit café. J'ai fait griller mes petites tartines sur mon camping-gaz, comme d'habitude, avec la petite fumée qui sort.
Et c'était pas la fin.
Et alors, deuxième acte, à 8h moins le quart du matin, le loup revient. Il est ressorti. Il a continué à m'ignorer complètement. Et il est retourné vers ce lieu sur lequel je mets mes déchets. Et il est resté encore un quart d'heure.
D'accord.
Et en tout, j'ai pu le filmer pendant 10 minutes. J'ai fait 10 minutes d'image. Mmh. De ce loup qui avance, qui recule, qui se pose des questions et qui m'ignore complètement.
Ouais.
C'est vraiment un truc incroyable. Et l'émotion, eh ben, elle est dans cette espèce de partage qui n'en est pas un, évidemment, parce que le loup se moque de moi. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il m'ignore. Je fais partie du paysage et je peux assister à la vie quotidienne comme ça d'un loup sauvage, un animal que peu de gens ont la chance de voir. Certains les aperçoivent par accident ou par pure chance, mais alors là, de voir un animal comme ça pendant des dizaines de minutes, qui n'a absolument aucune inquiétude, qui est à moins de 100 mètres de moi, ça a été fabuleux, quoi. Donc voilà, et ça c'est tout récent, c'était là, c'était dimanche matin, c'est fabuleux. Allez, bien joué, là. C'est croûté, c'est ça.
C'est croûté, c'est pour ça que ça dérape là.
Et ouais, puis un coup ça porte, un coup ça casse, c'est pas la plus facile.
Non. La forêt est juste à côté, leur tanière est où?
Alors la tanière, elle est un peu plus au sud-ouest. Je ne sais pas si vous voyez, là, il y a une grande lande déserte.
Si
avec
on voit, parce qu'on a une très belle lune, donc on a l'air de voir. Oui.
On voit là, et puis on devine sur le ciel, là, justement grâce à la lune, on devine une crête avec une petite forêt qui est une forêt de mélèze, et la tanière est dans cette forêt.
Et alors, l'odorat, c'est véritablement son radar. Hein.
Ah ben, le loup, c'est l'odorat. Quoi. C'est des centaines de mètres à bon vent, capable de suivre une trace à l'odorat. Enfin, quand on voit déjà l'odorat des chiens, on peut imaginer l'odorat du loup. C'est vraiment son arme.
Et à contre-vent aussi, ça marche.
Et à contre-vent, à plusieurs dizaines de mètres, ce qui est quand même complètement étonnant. Quoi. C'est vraiment l'arme fatale du loup. Donc on a toujours peur de ça. Mais en fait, moi, j'ai décidé que j'étais là et que de toute façon, ils savent que je suis là. C'est eux qui mènent la barque, c'est eux qui mènent la danse. Ils savent que je suis là. Le seul truc, c'est de ne pas être intrusif, de ne pas les surprendre.
Thank you.
Et alors, vous m'avez dit, bon, on ne va pas rester très longtemps, parce que moi, il ne faut pas que je laisse évidemment mon odeur de manière persistante. Bon, ça devrait aller. Mais en tout cas, bon, pas d'urine non plus, hein, c'est ça.
Ben, il vaut mieux que vous vous reteniez, parce que, en fait, moi, je me force à boire et à faire pipi. Et en fait, là aussi, il y a cette fameuse relation, mais toujours liée à l'odorat, au territoire. Et si on commence à pisser tous un petit peu partout, ça risque d'un petit peu d'être problématique. Donc, déjà, je viens en général tout seul et c'est vrai que...
Oula, ça glisse quand même. Ah,
ouais. Et là, vous êtes là de façon temporaire et exceptionnelle.
Oui.
Mais je crois que...
C'est un cadeau,
peu de choses peuvent tout faire basculer.
Jean-Michel Bertrand, une fois de plus, cet émerveillement de gosse que vous avez toujours eu, avec évidemment beaucoup de professionnalisme pour attraper donc ces loups dans votre caméra. Qu'est-ce qui a changé en vous depuis 3 ans que vous regardez ces loups ?
C'est très profond, parce qu'en fait, c'est presque philosophique, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans la réalisation d'un rêve d'enfant. Et si on m'avait dit qu'un jour, les loups seraient là dans cette vallée, qui est une vallée complètement sauvage et isolée, mais dans une vallée dans laquelle je venais quand j'étais ado avec mes potes, faire des bivouacs, faire des feux, etc. Si on m'avait dit ça, bon, j'aurais jamais cru. Et ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'au départ, quand j'ai voulu faire ce film, je m'étais dit, le challenge était de réussir à filmer à la fin un cul de loup, comme on dit, à 300 mètres. Et moi, ça m'aurait suffi. Et puis, je me retrouve dans un délire où j'ai pu assister à l'élevage des jeunes, enfin à l'élevage, à l'éducation des jeunes sur le site de rendez-vous, à l'apport de proie, à la tanière. Alors évidemment, la tanière, je m'en suis jamais approché, même si je sais à peu près où elle est. Et je m'en suis même jamais approché une fois qu'ils l'abandonnent et que les petits sont plus grands, parce que ça, c'est leur lieu à eux. Donc toujours une grande discrétion, une grande pudeur par rapport à tout ça. Mais je me serais jamais imaginé une seconde pouvoir avoir cette relation avec ces animaux. Mais ça m'a fait grandir, quoi. C'est phénoménal. En fait, c'est quelque chose. Ouais. Parce que là, on est dans une aventure humaine, émotionnelle. On est dans une charge émotionnelle énorme. Et on est dans cette espèce de je sais pas, j'ai l'impression de plonger dans la nature sauvage, dans l'essentiel.
Moi, je vous connais assez. Je vais pas dire que vous êtes dans une addiction. Vous êtes pas loin, quand même.
Ben là, ça va être, moi, ce que je me dis, c'est que je sais pas comment je vais arrêter, quoi. Parce que le loup, c'est carrément la drogue dure, quoi. Les hommes et les loups, à l'époque où on était des hommes un petit peu plus rustres, les chasseurs, cueilleurs, eh bien, on était utiles les uns aux autres. C'est-à-dire que quand les loups tuaient un cerf et qu'ils commençaient à le manger, si les hommes tombaient dessus, eh bien, ils pouvaient manger les restes. Et quand les hommes tuaient quelque chose et qu'ils laissaient des carcasses, eh bien, les loups passaient derrière. Et du coup, voilà, la coopération, elle existait déjà à cette époque. On est bien loin des polémiques. Non, mais c'est vrai. Le loup nous fait toujours découvrir les faiblesses humaines. Et voilà. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'on a la chance d'avoir ici encore une nature sauvage, une nature préservée. Et que ça, c'est plus qu'un trésor. Il faut réapprendre au loup, évidemment. Et je crois que c'est vous qui le disiez une fois au cours d'une discussion précédente. Vous disiez qu'il faut réapprendre au loup à craindre les troupeaux et les hommes. Et c'est une évidence. Le loup doit savoir que c'est dangereux de s'approcher des troupeaux. Et puis c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça, et je crois que ce qui me fera arrêter, c'est ça. C'est-à-dire que cette proximité que j'ai maintenant avec la meute me pousse aussi à me dire il serait peut-être temps d'arrêter à un moment donné, parce que le but, ça n'est pas, on n'est pas dans un conte ou dans un film à la Walt Disney en disant voilà, je vais dormir avec les loups dans la tanière et ça va être mes copains. Non, le truc, c'est que moi, je suis un homme, eux, ce sont des loups, et qu'il y a une petite tension entre les hommes et les loups. Et le but est que chacun reste à sa place. Et moi, j'ai l'impression, à travers cette aventure, d'être le témoin de la magie de la nature sauvage. Voilà, tout simplement. Mais bon, il ne faut pas aller trop loin. Il faut savoir raison garder. Peut-être qu'il va falloir décrocher. Et ça va être dur.
Jean-Michel Bertrand, ce qui est fabuleux, c'est de se dire qu'ils sont peut-être pas loin, on ne le sait pas, là, ce soir, cette nuit. Alors, en tout cas, de toute façon, s'ils sont dans le coin, ils nous ont repérés.
Je crois qu'ils ne sont pas loin parce qu'il y avait des traces, là, pas plus tard qu'hier.
Ah oui, c'est ce que j'ai vu.
Voilà, donc les traces.
Moi, je n'irai pas le loup, j'ai vu les traces du loup.
Les
traces, c'est fabuleux, là.
Sont quand même fraîches.
Là, on en a à peu près, vous nous avez montré à 20 mètres, à peu près.
Et alors, vous avez vu, ce qui est fabuleux, c'est que c'est le grand fainéant aussi. C'est-à-dire que les traces que vous avez vues, elles sont dans mes traces de ski.
C'est ça.
C'est-à-dire qu'eux vont sur la neige tassée par mes traces de ski.
Alors,
et moi, quand je marche à pied, des fois dans la neige, que j'ai pas les skis et qu'il y a des traces de loup, je marche dans les traces de loup parce qu'elles sont à peu près à 60 cm là, chacune les unes des autres avec des gros trous quand même, et ça m'aide à marcher.
C'est de la coopération.
Coopération.
Eh ben alors, tout va bien. Allez, je redescends. Je vous laisse là, hein, c'est pas ce que j'ai compris.
Moi, je reste. Moi, je reste parce que là, moi, bah, tant que j'ai pas décidé d'arrêter ce film, je reste. J'ai l'impression de compter mes jours et je me dis, je reste tant que je peux, jusqu'au montage, jusqu'au dernier final cut, je reste. Et je sais pas comment je vais faire pour quitter ces livres.
Salut Jean-Michel et puis à bientôt.
Salut, merci Denis.
C'était donc le troisième reportage que je vous proposais donc avec Jean-Michel Bertrand. Donc là, vous l'avez compris, hein, c'était donc c'était début mars, me semble-t-il, non,
Jean-Michel. Ouais, c'était début mars.
C'était début mars. Ça. Et moi, je suis pas resté très longtemps justement pour pas que mon odeur imprègne et réciproquement. Donc, je suis resté quoi, une demi-heure, tout cassé.
Quelle émotion d'écouter ça, ça me tue là. En plus, c'est fou parce qu'avec le, franchement, ça m'émeut vachement parce que ben voilà, là, je suis passé à une autre phase, à grosse nostalgie. Là, je vais mouiller le micro de mes larmes. Mais non, surtout l'histoire du loup en hiver, parce qu'il est dans le film, ce loup, et il s'est passé des choses derrière encore après que vous soyez parti, et dans la semaine qui a suivi, c'est que ce loup, il est revenu me voir. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est qu'en fait, pourquoi il était là? Parce qu'il y avait une carcasse dans le coin, que j'avais pas remarqué, évidemment, et que je le voyais trimballer des os. Enfin, je l'ai vu deux fois trimballer des os et grignoter ses os. Et en fait, je me suis rendu compte que ce loup, c'était un loup qui était extérieur à la meute, c'était un solitaire, et qui en fait essayait de vivre un peu sur les restes que laissait la meute, quoi. Et ça me touche énormément d'avoir réentendu ça et de parler de ce loup sur le terrain quelque part, parce qu'on y était. Là, c'était le dimanche d'avant, quoi, que je l'avais vu première fois. Et après, j'ai passé mon temps à ce bivouac de fou de l'hiver dernier, et j'ai vu ce, enfin voilà, quoi. Donc là, non, je suis franchement ému.
Alors,
Merci pour le cadeau.
Ben non, mais vraiment, c'est vraiment un grand plaisir. Enfin, c'était partagé. Puis je crois que c'est partagé par vous toutes et tous qui nous écoutez donc aujourd'hui encore. La Vallée des Loups, vraiment, allez voir ce film. Puis aussi donc cet album qui vient de sortir aussi aux éditions de la Salamandre, La Vallée des Loups aux éditions de la Salamandre, parce que là, ça complète. C'est autre chose, mais évidemment, c'est les photos et c'est toute cette histoire. Vous raconterez ça. Alors, c'est pas que pour les petits enfants. Non, non, pas du tout. Bien que dans les histoires pour enfants, ben c'est vrai que le loup, il a quand même plutôt ça le rôle. Hein.
Oh putain, le petit chaperon rouge, moi je crois qu'il faut porter plainte. Là.
Mais bien sûr. Non, on va quand même garder Kipling avec Mowgli, parce que là, on a quand même un loup sympathique.
Hein. Voilà, c'est comme ça. Comme quoi tout arrive.
Mais oui, tout arrive. Et dans quelques instants, justement, on va parler du grand méchant loup avec Véronique Ludeny, que nous allons rejoindre, et qui est vétérinaire du côté de Saint-Martin de Vésubie.
Amis, vous commencez à chauffer mes oreilles. Vous voulez m'énerver, je vous le déconseille.
Et là, ma tourterelle, votre mauvaise foi ne vous rend pas plus belle. Ne nous disputons pas.
Ne pas nous disputer, pour ça je suis d'accord. Si vous reconnaissez que c'est vous qui avez tort.
Si vous me cherchez, vous allez me trouver.
Et je vais trouver quoi? Allez-y, montrez-moi.
La bave du crapaud ne va jamais bien haut.
Mais gare à ce qui tombe de la blanche colombe.
Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties.
Normalement, personne, à moins d'être malade. Ainsi ne déraisonne au milieu des salades.
C'est vous qui divaguez dans les rhododendrons. J'aurais dû me méfier, maman avait raison.
Votre mère, parlons-en, une fichue mégère.
À nos atermoiements, ne mêlez pas ma mère.
Voyou de pas étage,
ogresse coprophage,
misérable pandour,
pompant de pompadour,
au trou le ver de terre,
au bûcher la sorcière,
fripouille, andouille, arsouille.
Non, rime en louille.
Poussez pas, je vous prie, mes mères dans les orties. Qu'est-ce que j'ai fait au ciel pour être tombé sur ce tromblon en dentelle,
cette caricature? Vous me me faites penser à du poisson pas frais. Il n'y a qu'à regarder votre gueule de raie.
Filons la métaphore, puisque j'ai toujours su que vous êtes trésor, une sacrée morue.
Quant à vous, mon tout beau, vous n'êtes qu'un maquereau.
C'est à vous qu'il est choix d'avoir un nid d'anchois.
Ce QI de pétoncle viendrait-il de votre oncle?
C'est-il votre tonton que sa nièce est un ton?
Et qu'on vous pousse avec mes mères dans le Varech.
Mais vous avez vu l'heure, nous sommes en retard. Misez vos rancœurs, nous reprendrons plus tard.
Oui, vous avez raison, on nous attend, je pense. Mais juste une question, avez-vous les alliances?
Bien sûr que je les ai, pour qui me prenez-vous?
Pour un type distrait, oh. Et mon futur époux.
C'est délicieux, tous ces petits mots d'amour. C'était donc « Mes mères dans les orties » avec Juliette, que nous aimons, et vous aussi, je le sais. Oui, c'est comme ça. Vous avez reconnu François Morel aussi, donc, qui était avec lui. Qui a... C'est Juliette qui a fait la mise en scène, d'ailleurs, de son spectacle. Et Juliette, ben, on le retrouve avec, je ne sais plus s'il y a 10, 12, 13, 15 albums. Il y a un coffret qui est très bien, qui est vraiment bien. Vous avez tout Juliette. « Mes mères dans les orties » pour se faire plaisir. Jean-Michel Bertrand, on va rejoindre une femme qui connaît bien, elle aussi, donc ces loups, mais auparavant, j'ai presque vous demandé des nouvelles des loups, parce que je sais que en juin donc 2016, bah, vous les avez un peu quittés.
Il a fallu, j'ai arrêté les premières semaines de juillet. Mmh. Il a fallu venir à la capitale pour le montage. C'était une autre étape. Et en fait, depuis, j'étais partout.
La respiration, ça a été particules fines, tout ça.
C'est chargé chez vous.
C'est chargé, hein, c'est très lourd.
C'est un peu chargé.
C'est balèze, oui. C'est le résultat de nos conneries. Hein. C'est pas
beau.
Ouais,
là, il y a du boulot.
Il y a du taf.
Il y a du boulot, mais il y a du rêve aussi, peut-être, si on se mettait à rêver à tout ça, à changer tout ça, à mettre un gros coup de pied plutôt que d'engraisser les lobbies, là.
Oui, mais on est persuadé qu'on va y arriver, ça prend du temps, c'est tout, mais sinon, oui, bien sûr. Parce que le sens de l'histoire, il est quand même là.
Ouais, le sens de l'histoire est là, il faudra qu'on se fasse entendre, parce qu'il y a quand même quelques... Enfin, bref, donc, on fera une autre émission.
Oui, oui, bien sûr.
Beaucoup plus engagé, mais en tout cas, l'histoire du retour, ça m'a évidemment toujours travaillé, et j'y suis retourné il y a 10 jours. Il y a 10 jours, j'ai eu quelques jours à la maison et tout ça, et j'ai dit pétard, j'avais laissé traîner une caméra automatique. Je suis monté et tout, j'avais vraiment le cœur qui battait. Déjà parce que j'ai pris 3 kilos dans l'été.
Ça ne se voit pas.
À force de manger et d'être, voilà. Donc c'est un peu... Et puis alors je suis arrivé, la caméra automatique, j'ai dit elle va plus avoir de batterie. Elle en avait toujours. Mmh. Il y avait des traces fraîches de loups dans la neige. Il y avait une petite neige, 5 centimètres. Et un loup était passé la veille. Et sur l'autre caméra automatique, il y a 5 loups qui étaient passés. Donc ça veut, enfin, ils étaient passés là, la veille. Mmh. C'est dingue. Donc voilà. Ça m'a fait plaisir. Je suis redescendu. Le cœur léger. Et là, ben voilà, j'ai retrouvé les particules.
Oui, bien sûr. Et puis vous avez laissé des invitations pour qu'ils puissent aller voir le film.
Voilà, exactement.
C'est quand même très sympathique de votre
part. Sur Radio Loup, ils annoncent les aventures de Jean-Michel Bertrand.
Mais oui, oui, oui. Et alors, sur Radio Loup, nous avons aussi Véronique Ludeny. Bonjour Véronique.
Bonjour à vous deux.
Et bien voilà.
Bonjour. Merci. D'abord, je voulais vous dire, c'est un plaisir d'entendre parler du loup avec passion, véracité et poésie. Parce que moi, on en parle toujours en problématique. Voilà.
Et oui, parce que vous êtes vétérinaire à Saint-Martin-de-Vésubie. Donc, on est au sein du Mercantour. Là, d'ailleurs, où cette bête, en novembre 92, est revenue par ses propres papates, hein. C'était ça. Alors, C'est intéressant parce que vous travaillez vous aussi avec les éleveurs. Bon, on sait très bien ce qu'il y a, c'est-à-dire qu'il y a à peu près entre 9000 et 10000 aujourd'hui brebis, moutons, donc qui sont tués par le loup. Donc pour les éleveurs, c'est niet, on n'en veut pas. Alors c'est pas le cas forcément de tous les éleveurs, de tous les bergers, mais quand
tout
même c'est ça. Mais alors qu'est-ce que l'on pourrait proposer? Parce qu'aujourd'hui, si vous voulez, on a des primes qui sont accordées, on va dire à l'attaque, c'est-à-dire c'est une prime que l'on va qualifier de négative. Donc l'éleveur va toucher 160 euros plus une prime de stress d'une centaine d'euros. Donc voilà. Donc qu'est-ce que l'on pourrait espérer?
Alors, après 20 ans de réflexion dans la vallée de la Vésubie et aussi tous les territoires de loups en France, l'idée c'est complètement changer, prendre de la hauteur avec ce dossier pour proposer un accompagnement positif et sortir de cette relation un peu négative et malsaine qu'on a au loup avec l'indemnisation. C'est on te tue, je te paye. Donc Bilard, on achète les éleveurs, c'est pas bien d'un point de vue sociétal et même par rapport à la valorisation de leur image. Et ce que je propose, que la profession vétérinaire propose aussi à travers ma voix, c'est de rentrer dans quelque chose de positif, c'est-à-dire que mettre en place des indemnisations positives qui vont être basées sur plusieurs critères. C'est-à-dire, l'éleveur a-t-il des chiens de qualité? On va l'aider pour avoir des chiens de qualité. Évidemment, la profession vétérinaire est dans cette intersection-là. Son troupeau, la prolificité est-elle bonne? Est-elle assez bonne? Y a-t-il d'autres mortalités dues à des pathologies? On va évaluer l'éleveur et accepter que l'éleveur soit évalué. Donc, c'est-à-dire que le ministère de l'Agriculture est assez d'accord pour ça, mais comme le disait Jean-Michel, il faut que les lobbies agricoles acceptent également une évaluation de l'éleveur.
Ce qui n'est pas encore gagné, hein, mais ça peut évoluer.
Voilà. Ouais. Donc parce que moi, je suis souvent sur Paris aussi pour essayer de parler avec eux et que ce soit la FNO, la FNSEA. Malheureusement, je pense que ils comprennent là-haut, ils comprennent, mais ils ont peur de pas être réélus. Il y a toujours ce pouvoir politique et justement cette schizophrénie qu'on a un petit peu en France entre la bonne idée qui s'est tellement simple à mettre en place et puis la peur de pas passer. Et voilà. Donc ouais. Et c'est pareil dans le monde agricole et donc une sorte de conditionnalité de l'élevage, voilà. Et puis aussi se poser la question des fois sur certaines zones, pourquoi des éleveurs, et puis malheureusement c'est toujours les mêmes qui touchent le plus de primes négatives, ce que j'appelle la prime négative. Retournent systématiquement sur les mêmes endroits.
C'est-à-dire qu'ils vont dans les zones à risque. Vous êtes en train de nous dire, parce que vous l'avez à peu près évalué, il y a 5%, je dis bien 5% des éleveurs.
C'est
ce que l'on dit.
Voilà,
vraiment, pour eux, c'est un business. C'est-à-dire qu'ils sont très contents du loup. Je ne parle pas de la majorité des éleveurs, hein, rassurez-vous.
Oui, tout à fait, parce que je travaille avec eux, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. Ce sont des vrais écologues. Hein, si vraiment, ils sont là, justement, ils ne sont pas dans les particules, ils sont dans un travail de pastoralisme et tout, 95% font tout ce qu'ils peuvent pour être bien.
Oui.
Et puis on a 5% de gueuleurs, voilà, malsains, qui profitent du système, qui se posent pas la question de dire tiens, je vais retourner dans cet endroit alors que depuis 15 ans, je me prends des attaques systématiquement. Quelque part, ils le font exprès. Ceux-là, ils le font exprès. Moi, j'en ai dénoncé quelques-uns dans ma vallée de la Vésubie, qui pour moi sont de mauvais éleveurs. Et d'ailleurs, je suis ravie de plus travailler avec eux, qu'ils le sachent, et de garder les 95%, parce qu'il y a des moments donnés où sur des zones de présence permanente, il faut se dire, peut-être qu'il faut aller ailleurs. Et sinon, leur donner des moyens différents, c'est-à-dire on donne une poche budgétaire à un éleveur avec un calcul qui est fait par un algorithme en disant le nombre de moutons, la zone de présence, on va t'allouer une poche budgétaire qui peut paraître terrible pour les auditeurs de 30 000 euros, mais parce que certains éleveurs en indemnisation négative ont touché jusqu'à 90 000 euros, et c'est souvent les mauvais éleveurs qui touchent ça. Et donc, s'ils ont une poche positive à l'entrée sur le territoire, ils vont tout faire pour bien garder, pour avoir de bons chiens, bien nourris, efficaces, imprégnés, dissuasifs mais non agressifs, avoir une belle prolificité, surveiller, mettre en place ce qu'il faut avec des bons pâturages.
Et alors, pardonnez-moi, Jean-Michel Bertrand, vous avez rencontré un homme que l'on retrouve dans cet ouvrage, hein, donc la vallée donc des loups aux éditions Salamandre, qui est un berger,
ouais,
Mathias.
Mathias, ouais. En fait, moi, je crois que voilà le truc. Moi, je veux pas rentrer évidemment dans la polémique, puis on n'a pas le temps. Puis la polémique et la posture, c'est vraiment quelque chose de aussi très négatif et pas constructif. Mais il y a des gens. En fait, il y a vraiment un problème. Je m'en rends compte. compte au fur et à mesure de ce que je rencontre des bergers, tout ça, un problème de chiens. Et c'est vrai que la meute de chiens, les chiens dressés, les chiens, ça existe. Et là, il y a un gars, j'ai malheureusement plus le titre.
C'est-à-dire qu'il va faire peur à tout le monde.
Voilà, c'est un gars
qui... Parce que du patou du côté de Chichiliane, par exemple, dans l'Isère, effectivement, ça fait des dégâts.
Ah ouais, mais moi j'ai eu des dégâts qui ont des patous qui sont dressés, qui vont pas attaquer, qui vont pas agresser les touristes et qui obéissent à leur maître et qui sont hyper efficaces parce qu'il n'y a pas de chien castré, parce qu'il y a une vraie meute de chiens. Bref, c'est une problématique hyper intéressante que je suis en train de découvrir. Donc, sans aller justement dans la polémique et aller dans le constructif, arrêtons pour une fois de se bouffer la gueule, la France partagée en deux, comme d'habitude. Essayons d'aller vers le constructif et surtout d'arrêter ce déni du loup. Parce qu'il y a un déni et la cause, elle est là. Le déni, tant que le loup n'est pas accepté en tant que tel, comme faisant partie de la nature, ben on n'avancera pas.
Véronique Ludéni, je me tourne vers vous pour un autre axe quand même, ce qu'on appelle les tirs de régulation, qui sont faits quand même beaucoup pour apaiser, on va dire, le peuple. Ce sont un peu des mesures politiques, mais qu'est-ce que ça vaut ces tirs de régulation aujourd'hui?
Ça vaut rien en fait, parce que depuis la mise en place des tirs de régulation, qui est en effet une mesurette pour calmer le peuple, hein, calmer les lobbying agricoles et faire semblant de mettre en place des mesures, en fait on a toujours autant d'attaques et même plus d'attaques. Hein. Nous, sur la zone du Mercantour où on a cette meute bien installée, ça s'était un peu régulé il y a 5-6 ans, en fait, avec justement toutes ces mesures, chiens, etc. Dialogue aussi, dialogue social et passerelle. Et depuis ces tirs, eh ben, on a tué 36 loups, 42 loups sur le territoire français, quasiment 20 sur le Mercantour, et on a eu autant d'attaques, même plus d'attaques.
Et ça c'est ce que j'allais vous dire. Voilà. Quand on déstructure une meute, en quelques mots, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh ben, ça veut dire que c'est comme dans une famille où en fait on a un père et une mère charismatiques qui va apprendre la bonne éducation. Comment on va faire un tir aléatoire? On peut tuer un élément de la meute constructif, régulateur. Et en fait la meute va perdre toute son interaction. Elle ne va plus savoir comment faire. Et devant la peur, c'est aussi un animal social. Hein, c'est évidemment un animal social. Le loup, il va mal réagir. Il faut quand même qu'il vive, qu'il mange. Donc il va attaquer de manière aléatoire ou agressive. Il va y avoir des jeunes en dispersion qui vont partir. Si par malheur on a tué le couple alpha ou un membre du couple alpha, il n'y a plus aucune régulation et il y a encore plus d'attaques. Ils ne vont pas manger que pour vivre, ils vont aussi attaquer des fois par peur, par rencontre fortuite. Malheureusement, c'est une très mauvaise mesure.
Grand merci Véronique Ludéni pour toutes ces précisions. Alors la peur du loup, oui, avec des tirs d'effarouchement, ça, évidemment vous êtes pour et beaucoup de gens sont pour parce qu'il faut réapprendre donc à ce fameux loup à avoir peur quand même de l'homme. Bon, le sujet est de toute façon extrêmement ouvert, mais surtout pas de manichéisme parce que ça ne sert pas à grand chose. Merci à vous, Véronique Ludéni. Merci, Jean-Michel.
Ah, merci, ça m'a fait trop plaisir. Tiens, de réécouter tous ces trucs.
On se revoit dans les Alpes bientôt, nous. Hein.
On va un petit coup.
Avec Christian Coloumi.
Avec Christian Coloumi, à qui on fait la bise. Tiens, je suis sûr qu'il nous écoute.
La vallée des loups. Merci à Vincent Godard, Julien Michel, à Camille Blanès et à Xavier Pestugia.